carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour à tous, nous fêtons en 2012 l'anniversaire de la mort de Jacques Fromental à Lévis, compositeur né le 27 mai 1799 et décédé le 17 mars 1862. Il entre au Conservatoire de Paris dès l'âge de 7 ans. Par la suite, il devient professeur d'harmonie au Conservatoire et se met à composer. On lui doit pas moins d'une quarantaine d'opéras. Nous allons en parler dans quelques instants avec Daniel Piston, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts. Bienvenue dans cette émission.
Bonjour.
Jacques Fromental à Lévis obtient le premier second prix de Rome, puis le premier grand prix en 1819. Il entre à l'Académie des Beaux-Arts en 1836. C'est un parcours prestigieux, prodigieux. Quelle est la première pensée qui vous vient lorsque l'on parle d'à Lévis ?
C'est évidemment le grand succès de certains de ses ouvrages lyriques. La Juive. Et la même année, un opéra comique qui s'appelle L'Éclair, 1835. On comprendra donc qu'en 1836, il soit entré à l'Académie des Beaux-Arts.
D'accord, une œuvre tellement immense. À Lévis, est-ce qu'il reste aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut retenir ?
Il est évident qu'il faut retenir sa carrière de musicien de théâtre. Parce que dans ces années-là, on ne faisait déjà pas carrière si on n'était pas un musicien de théâtre. Donc il a sa rue à Paris, dans le 9e arrondissement, parce que, comme Rossini, comme Auber, il a écrit pour le théâtre. Il a écrit bien d'autres choses, mais de ça, on en parle rarement. Des chœurs d'Orphéon, de la musique religieuse, et même de la musique de piano, mais très peu. Donc à Lévis, vit dans nos mémoires, grâce à la Juive, comme je le disais, beaucoup moins grâce à ses opéras comiques, parce que vous avez cité ses nombreux ouvrages lyriques, mais les opéras sérieux sont minoritaires. Il n'y a qu'une demi-douzaine de grands opéras en 5 actes. Il y a en revanche toute une production d'opéra comique et même d'opéra italien, production à laquelle Cecilia Bartoli s'est intéressée depuis quelque temps.
Ah bon ?
Oui, parce
un
que
on connaîtrait.
Oui, parce que l'ouvrage qui s'appelle Clary a été en fait interprété, créé par la Malibran. Et vous savez que Cecilia Bartoli a marché sur les pas de la Malibran. Donc, elle a redonné vie à Clary, qui est un ouvrage donc, de jeunesse, 1828, je crois, au théâtre italien, de Fromental à Lévis. Fromental, c'est un joli prénom d'ailleurs, ne trouvez-vous pas ?
C'est vrai que c'est totalement oublié, et pourtant, à l'époque, c'est absolument à la mode.
Mais oui, parce qu'il est dans le calendrier républicain, donc mm-hmm. Je pense que comme il était né en mai, et comme le 7 prairial... C'est ce nom-là qu'on trouve sur le calendrier républicain, ses parents. C'est peut-être une chose à souligner d'ailleurs, ses parents dans une intention d'intégration, dans l'intention d'intégrer davantage les Juifs, le prénom Fromental, non seulement parce que c'est à la mode, et je dirais même quand ils vont le mettre au conservatoire, alors qu'il est encore un enfant, c'est sans doute toujours aussi dans le même souci de mieux s'intégrer à la société parisienne.
Revenons au parcours de Jacques Fromental à Lévis. Donc, je le disais en introduction, il entre à l'Académie des Beaux-Arts en 1836. Alors, on va peut-être très loin dans le temps. Donc, il en devient le secrétaire perpétuel en 1854. À l'époque, il représentait quoi en France ? Il était vraiment important ?
Tout à fait. Je pense qu'après Meyerbeer, qui vraiment impose ce qu'on appelle le grand opéra romantique, le grand opéra historique sur les scènes françaises, avec Robert le Diable, avec les Huguenots, et jusqu'à l'Africaine, avec 4 grands ouvrages, c'est vraiment à Lévis qui a le plus de succès dans son sillage. Et le problème, c'est que justement, il est dans son sillage. Mmh. C'est-à-dire que si à Lévis avait créé quelque chose dans le domaine italien, vous voyez, s'il avait été novateur, en créant le premier, un grand opéra à l'Académie de musique, je pense que son nom se serait davantage imposé. Alors que, comme vous le rappelez, c'était un homme respecté. Et moi, j'enverrai une preuve que l'on ne cite jamais. J'ai travaillé sur le Charivari, vous savez, ce journal drôle, beaucoup plus drôle, je crois, que les journaux drôles d'aujourd'hui, parce qu'il était moins méchant. Eh bien, le Charivari, que j'ai regardé en ce qui concerne la musique depuis ses origines sous la monarchie de Juillet jusqu'à l'époque de la mort d'à Lévis, ne le maltraite jamais. Alors qu'il maltraite Meyerbeer, alors qu'il va maltraiter Wagner, si vous voulez.
Donc pourquoi il ne le maltraite pas ?
Mais je pense que justement, c'est un homme respecté, mm-hmm. C'est un homme très savant. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier que c'était l'élève chéri de Cherubini. Or, Cherubini, c'est par excellence le musicien savant. C'est un musicien, certes, qui va en Italie après son prix de Rome, donc il s'essaye à quelque chose qui pourrait être italien, mais en fait, ça reste un musicien savant, et c'est peut-être une raison pour laquelle il y a une relative désaffection dès la fin du XIXe siècle, musicien peut-être trop savant, comme Cherubini. Or, c'est peut-être une fausse image qu'on a d'Halévy, parce que Halévy aimait aussi beaucoup Mozart, il est l'auteur d'une des premières biographies de Mozart en français. Et puis, ce qu'on oublie souvent, je crois, c'est la façon dont il savait écrire, dont il savait parler. Et c'est pour ça qu'il devient, en 1954, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Et là, je crois qu'on oublie aussi trop souvent l'œuvre qui a été la sienne. La façon dont il a milité pour le diapason, une uniformisation du diapason. La façon dont il a milité pour qu'on rétribue mieux les compositeurs dans les théâtres. Il ne faut pas oublier que la SACEM avait été créée en 1951, mais il y avait des règlements dans les théâtres qui faisaient qu'au bout de 200 représentations, le compositeur était beaucoup moins rémunéré. Donc il a beaucoup travaillé. Son côté savant, on le voit aussi quand il va jusqu'à écrire en quart de ton en 1849 pour reprendre les micro-intervalles des musiciens d'autrefois. C'est vrai qu'il était un peu entraîné par son frère, son petit frère, Léon Halévy. Léon Halévy, qui d'ailleurs a été bibliothécaire assistant à l'Institut de France. Léon Halévy, qui a écrit les paroles du plus fameux air de son grand frère. Le fameux air Rachel, camp du Seigneur, de la Juive.
En fait, c'est lui qui écrit.
C'est lui qui écrit les paroles, d'accord. Alors que le librettiste, c'est Scribe. Alors qu'il n'y aurait jamais eu la Juive s'il n'y avait pas eu Scribe. C'est le directeur de l'opéra, le très fameux aussi docteur Véron, qui demande à Scribe ce livret. Scribe écrit le livret, on dit qu'il l'aurait écrit pour Meyerbeer d'ailleurs. Et un jour, il reçoit Halévy dans sa propriété. Bon, Scribe était une des très grandes personnalités du Paris de cette époque. Il reçoit Halévy et Halévy accepte d'écrire la Juive. Et il y avait, à la fin de ce quatrième acte, un duo. Et le grand ténor de l'époque, qui était Adolphe Nourry, suggère qu'on écrive un air. Parce que vous savez que les premiers ténors, sopranos, voulaient des airs à leur mesure. Donc, le frère d'Halévy, Léon Halévy, qui sans doute était là ce jour-là, accepte d'écrire très rapidement un air pour que son frère remplace ce duo par un air. Et c'est ce fameux air qui est devenu le morceau le plus célèbre de la Juive à la fin du quatrième acte.
Jacques Fromental Halévy, donc à l'art de la musique et aussi l'art des mots, comme vous venez de le souligner, il a un réel talent d'écrivain. Il écrit les lettres sur la musique, parues sous le pseudonyme de Gervasius.
Dans le Constitutionnel, oui. C'est justement la preuve que cet homme était doué d'un exceptionnel talent d'écriture. D'ailleurs, il a réuni un peu avant sa mort l'essentiel de ses articles. Son frère a fait paraître, un an après sa mort, d'autres souvenirs. Mais effectivement, il faut lui rendre justice, et surtout à l'Institut de France. Non seulement c'est un grand musicien, car c'est un grand musicien, il a l'art d'orchestrer comme peu ont su le faire. Et puis, c'est un grand professeur, parce que, bon, encore une fois, Cherubini était directeur du conservatoire, donc il devient très jeune, d'abord professeur de solfège, après professeur d'harmonie, après professeur de contrepoint, et finalement, alors qu'il est déjà à l'Institut, professeur de composition, ce qui est la consécration suprême. Il a d'ailleurs Bizet comme élève.
Exactement, il a des élèves très très célèbres. Charles Gounod également, François Bazin.
Oui.
Beaucoup d'élèves.
Mais l'important, c'est Bizet, parce que Bizet va épouser sa fille,
Geneviève.
La fameuse Geneviève, qui deviendra, après la mort très prématurée de Bizet. Bizet, malheureusement, est mort très jeune. Il était né en 38. Il meurt après Halévy, mais enfin, il meurt très jeune. Et Geneviève va donc épouser Strauss et devenir Geneviève Strauss, qui est le prototype, le modèle de la duchesse de Guermantes de Proust. Quelle carrière!
Alors, il disait de la musique avec un certain enthousiasme, « Elle offre ce merveilleux et sublime accouplement de l'art qui crée, qui émeut, et de la science qui régit, mais l'art seul domine en maître, la science gouverne et ne règne pas. »
Mais c'est important quand même qu'il ait écrit ça, si vous voulez. Bon, c'est vrai qu'il meurt en 62, à l'époque, sous le Second Empire, c'est déjà une ère positiviste. On a déjà le règne du réalisme avec Courbet. Et c'est très important que dans la citation que vous avez donnée, ce terme « science » revienne.
Pourquoi ?
Mais il faut bien voir aussi que depuis le XVIIIe siècle, les sciences s'étaient installées d'abord en Allemagne, puis après en France. Et quand on crée le Conservatoire de Paris, qui n'est pas accepté d'emblée, hein, c'est un établissement qui a suscité beaucoup de réserves. On parle évidemment aussi de la science de l'écriture musicale, de la haute composition musicale, disait un professeur, et beaucoup de professeurs de ce temps. Moi, ce que je retiendrai d'Halévy aussi, c'est une phrase que son frère Léon avoue avoir souvent entendue dans sa bouche. C'est « la musique n'a pas dit son dernier mot ».
Oh, c'est beau, c'est très très beau. Alors peut-être nous pouvons nous quitter sur cette très belle phrase. Merci beaucoup Daniel Piston d'être venu nous parler de Jacques Fromental à Lévy, un académicien, un compositeur, mais également très très bon lettré, puisqu'il a écrit de nombreux ouvrages pour le théâtre notamment. Entré à l'Académie des Beaux-Arts en 1836, il en sera secrétaire perpétuel en 1854. Et nous fêtons donc cette année en 2012 l'anniversaire de sa mort. Merci à tous, à bientôt.
Merci.